Vous écoutez, on lit pour vous.
L'IA fouille dans nos déchets. Un texte de Somini Sengupta du New York Times, paru le 8 avril 2024 dans la presse. Un hôtel met des caméras dans ses poubelles pour savoir ce que ses clients jettent. Tiens, les croissants sont trop gros. On en jette à la douzaine tous les matins. Les profits partent avec. Un supermarché soumet ses données de vente à un programme. Oh, les oignons jaunes se vendent moins bien que les rouges et risquent de finir à la poubelle, avec des profits perdus là aussi. Une occasion flairée au dépotoir. L'intelligence artificielle, IA, donne naissance à un secteur émergent qui tente de faire de l'argent en réglant un problème insensé. La quantité gargantuesque de nourriture intouchée qui transite des supermarchés et des restaurants vers la poubelle. La majorité n'est pas compostée et finit au dépotoir, où sa décomposition libère des gaz à effet de serre. C'est une occasion d'affaires offrant des profits dodus. La société WinNow a conçu un outil d'IA qui permet d'espionner les déchets des restos. Une autre société, A-Fresh, analyse les données des supermarchés pour détecter les écarts entre les stocks d'un magasin et ce que les consommateurs achètent réellement. L'IA a sa propre empreinte écologique. Elle est boulimique en électricité car elle digère une quantité pentagruélique de données. Par ailleurs, l'IA ne peut pas encore reprogrammer le cerveau de l'Homo Mundialis Modernicus, qui s'attend à des avocats frais durant toute l'année, à une variété toujours plus grande de petits pots de yogourt en plastique et à d'énormes bols de nachos au bar après le boulot. Aux États-Unis, le tiers des aliments cultivés n'est jamais consommé, un problème créé par l'industrie alimentaire moderne. Le gaspillage, un gros problème. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 1 milliard de tonnes de nourriture ont été jetées dans le monde en 2022. Le gaspillage alimentaire représente de 8 à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, autant que les émissions de l'aviation et du transport maritime réunis. Ce problème est balayé sous le tapis, affirme Mark Zornes, fondateur de WinNow, qui travaille auprès de restaurants, d'hôtels et de traiteurs. L'inscription d'une date de péremption sur les emballages aggrave les choses car des aliments parfaitement comestibles sont jetés à la poubelle. Des épiciers prennent les bouchées doubles. Dans l'ouest du Canada et des États-Unis, un regroupement du secteur alimentaire s'est engagé à réduire le gaspillage. C'est un début. Entre 2019 et 2022, les 8 chaînes du projet Pacific Coast Food Waste Commitment, PCFWC, ont signalé une baisse de 25 % de leurs volumes totaux de nourriture invendue. Elle donne plus de nourriture à des associations caritatives et envoie plus de produits devenus incomestibles aux installations de compostage, elles demeurent rares, plutôt qu'aux dépotoirs. Cela montre que l'objectif national de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030 est peut-être atteignable, mais qu'il faut un effort bien plus grand chez tous les acteurs du secteur alimentaire, souligne Dana Gunders, directrice de ReFed, un groupe de recherche et de pression qui suit les données du PCFWC. De nombreux nouveaux outils aident désormais les détaillants à réduire le gaspillage. De jeunes sociétés comme Apeel et Mori proposent des enduits qui prolongent la fraîcheur des produits. L'appli Flash Food offre aux clients des aliments à prix réduit dans les épiceries, à l'instar de Too Good To Go, qui, elle, inclut les aliments excédentaires des restaurants. Combien d'œufs? Et pas juste les œufs. Dans chaque épicerie où elle travaille, l'IA Dayfresh passe au crible les données de vente de chaque produit frais sur 6 ans. Ainsi, elle prévoit combien d'avocats les clients vont acheter à telle date, à tel prix. Comme on sait en combien de jours un avocat se gâte, elle peut quantifier la commande à faire. À Pâques, les enfants aiment décorer les œufs. L'IA Dayfresh calcule combien de caisses d'œufs supplémentaires il faut commander, mais aussi combien de poivrons en plus, puisque les clients font des omelettes avec les œufs en trop. Un épicier d'expérience, c'est ça, dit Matt Schwartz, cofondateur Dayfresh. Mais l'IA lui fournirait des informations précises. Commander 105 caisses d'œufs 7 jours avant Pâques plutôt que 110. Et pas juste sur les œufs. Chaque caisse est importante, dit-il. En outre, les gérants expérimentés se font rares, dit Suzanne Long, directrice du développement durable chez le détaillant alimentaire Albertsons, qui utilise Afresh. L'IA nous permet d'être plus précis. Pas seulement « je dois commander des oignons », mais « ce type d'oignon », précise-t-elle. Selon Mme Long, la chaîne a réduit le gaspillage, mais n'a pas voulu chiffrer l'amélioration. Cette IA scrute les poubelles. WinNow installe des caméras au-dessus des poubelles dans les cuisines de restaurants. Les images passent dans un algorithme qui sait faire la différence entre une demi-casserole de nouilles, du gaspillage, et une peau de banane, un déchet. Un groupe d'hôtels Hilton a ainsi constaté que de nombreuses viennoiseries du petit-déjeuner sont trop grosses et que les fèves au lard restent souvent dans l'assiette. Refed, le groupe de recherche, a estimé en 2022 que 70% des aliments gaspillés dans les restaurants sont laissés dans l'assiette, un signe qu'il faut reconsidérer la taille des portions. WinNow travaille surtout avec des hôtels et des cafétérias. Selon M. Zornes, le PDG, les restaurants gaspillent entre 5 et 15% des aliments qu'ils achètent. Tout le monde sait ça. C'est un problème évident. Mais c'est un problème que nous ne réglons pas. C'était « L'IA fouille dans nos déchets », un texte de Somini Sengupta du New York Times, paru le 8 avril 2024 dans la presse.
La nuit des temps, entretien avec Joséphine Bacon. Un texte d'Antoine Gauthier paru en hiver 2023-2024 dans la revue Culture Trad Québec. Dans les loges de la salle de spectacle du musée McCord Stewart à Montréal, une discussion s'anime autour de la tradition orale inoue menée par Antoine Gauthier et Philippe Dubois du Conseil québécois du patrimoine vivant, à la suite d'une prestation publique de Charles Happy Bellefleur récitant le mythe fondateur Kwekwatcheux, Carcajou. L'événement s'inscrit dans un cycle de 5 soirées durant lesquelles M. Bellefleur offre un Natanoukan différent au public, de durée variable, avec interprétation simultanée par Joséphine Bacon, traductrice et poétesse bien connue. Les Atanoukans. Antoine Gauthier. Que sont les Atanoukans? Joséphine Bacon. Les Atanoukans que Charles Happy raconte représentent la création du monde. C'est vieux. Ils sont aussi vieux que quand, comme si la Terre, comme si ça avait commencé avec les animaux. Puis l'humain est venu plus tard. Les animaux qui nous enseignent toutes ces choses-là, comme Mèche, qui tue tous ceux qui sont dangereux, comme Kwekwatcheux, qui tue Wananouyeux, une moufette géante, ont dû tuer tous ces êtres dangereux pour que la Terre soit habitable pour l'humain qui s'en venait. Parce que s'ils n'avaient pas tué tous ces animaux, la Terre n'aurait pas été habitable pour l'humain. Si donc aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il y a eu Mesh, puis il y a eu Kwekwetche, Carcajou, il y a eu Tchakapèche, ainsi de suite. Philippe Dubois, comment ça se passait quand votre grand-père vous racontait les Atanoukans? Charles Happy Bellefleur. Un Atanoukan par soirée. Des fois, on ne le faisait pas quand on était fatigué, mais quand on n'est pas fatigué, les dimanches, on donne un Atanoukan dans la soirée, dans la forêt. Joséphine Bacon. C'était une façon aussi d'endormir les enfants. Tu leur racontais des Atanoukans, tu grandissais avec des Atanoukans, puis rendu à un certain âge, quand tu devenais adulte, tu les connaissais par cœur. Alors, quand toi t'avais des enfants, tu continuais. Parce que, tu sais, dans le bois, l'hiver, la nuit vient de bonne heure. Ça fait que les enfants se couchent tôt. Les grands-parents racontaient, puis les enfants s'endormaient avec ça. Le grand-père continuait à raconter jusqu'à temps que tous les enfants s'endorment. Il y avait des tout-petits qui s'endormaient les premiers. Philippe Dubois. Ça fait que plus ils vieillissent, plus ils se rendent loin dans l'histoire. Joséphine Bacon. Oui, c'est pour ça que ça dure depuis la nuit des temps, parce que tu grandissais avec ça. Parce que plus tu vieillissais, plus tu restais éveillé longtemps, plus tu allais loin dans l'Atanoukan. Tu réécoutais tout le temps. Tu finissais par les connaître par cœur. Carcajou et les différentes versions. Joséphine Bacon. Chaque conteur raconte le même Atanoukan, le même cœur de l'Atanoukan, mais chacun a sa façon de le raconter. Chez certains conteurs, une fois qu'il tue Wananouyeu, ses frères se ruent sur lui et le coupent. Chez d'autres conteurs, Wananouyeu devient une moufette de la grandeur qu'on lui connaît aujourd'hui, mais chaque conteur a sa façon. Je l'ai entendu raconter de plein de façons par d'autres vieux, à Natashquan, à Mingan. J'ai entendu des gens de Pessamit aussi parler de Carcajou, à Schefferville. Chacun le raconte à sa façon. Chez les Cris, c'est la même chose exactement. Tu vois, lui, Charles Happy, raconte que Wananouyeu, une fois que Carcajou l'a tué, ses frères l'ont coupé en 1000 morceaux. Ça a donné des insectes, comme les abeilles, les guêpes et des oiseaux, tout ce qui vole. Mais un autre conteur va raconter la même chose. Il a été coupé en 1000 morceaux par ses frères, des frères de Carcajou, de Kwekwetche, sauf que les 1000 morceaux sont devenus la moufette qu'on connaît aujourd'hui. Avant, c'était un géant, mais c'est devenu la moufette commune, tandis que pour lui, Charles Happy, encore une fois, les 1000 morceaux ont donné naissance à des insectes. Antoine Gauthier. C'est à cause de Charles Happy qu'il y a des mouches partout dans le bois. Rire. Joséphine Bacon. Chaque conteur a sa version, mais c'est tout le temps la même chose. C'est Carcajou. Il y a toujours les deux petites vieilles, puis il y a toujours une des deux vieilles qui fait semblant d'être morte. Pour l'araignée puis l'outarde, c'est pareil. Tu les retrouves dans toutes les versions. L'araignée est devenue une fourmi à cause de sa ceinture qui n'arrêtait pas d'être serrée, puis quand Carcajou s'est tanné de la serrer, c'est ce que ça a donné. Puis le foulard de l'outarde qui se détachait tout le temps parce qu'elle avait un cou trop court. Tu comprends? Comme elle n'avait pas de cou, son foulard se détachait. C'est pour ça que Carcajou lui a étiré le cou. Philippe Dubois. Ça peut prendre combien de temps de raconter ces contes-là? Joséphine Bacon. C'est toujours très long. Carcajou, c'est comme les 1001 nuits. Ça finit plus. Tu vois, à un moment donné, dans l'autre partie des épisodes de Carcajou, c'est ce qu'il fait qui va donner les nations. Parce que Carcajou a une belle sœur, Il a toujours sa femme, mais il y avait un kick sur sa sœur. Puis cette nuit-là, il pensait de coucher avec sa belle-sœur, sauf que sa femme et sa sœur connaissaient les intentions de Carcajou, ça fait qu'elles ont switché de place. Finalement, c'est avec sa femme qu'il a couché. Quand il s'est rendu compte de ça, il était tellement fâché qu'il a, ça ressemble à un viol, on va dire les mots comme ils sont, il a violé sa femme dans tous les orifices qu'elle avait, dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche, dans... partout. Dépendamment où ses enfants sont nés, ça a donné les Inuits, ça a donné les Inuits, ça a donné les Blancs, ça a donné des races. La collecte des récits. Philippe Dubois. Est-ce que vous les avez racontés, ces récits? Joséphine Bacon. Je les ai surtout transcrits en Inuit et traduits en français. Ça m'arrive de les raconter. Ça dépend des questions qu'on me pose, puis, dépendamment de la réponse que je dois donner, ça me ramène à ces Atanoukan-là. Tu sais, quand ça parle de l'ère glaciaire, ben, c'est les oiseaux d'été. Quand la terre a pris en feu, c'est Ayaché, puis Mèche, c'est un poisson. Philippe Dubois. Est-ce que vous les avez entendus quand vous étiez jeune? Joséphine Bacon. J'étais au pensionnat, donc je les ai pas entendus. Le premier qui m'a raconté Kwekwatcheux, c'était Rémi Savard. Après ça, j'ai commencé à travailler avec eux, les anthropologues, puis j'ai commencé à les transcrire et à les traduire. J'en ai tellement. C'est comme les oiseaux d'été. Je pense que je l'ai transcrit et traduit du Labrador jusqu'à Matimekush, Shefferville, jusqu'à Pessamit dans toutes les versions. Je les ai tous entendus parce que j'étais assistante de recherche de Sylvie Vincent, l'anthropologue. C'est moi qui enregistrais les vieux. Dans ces années-là, dans les années 70, les aînés racontaient encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant qu'il n'y a pas eu la télévision à Natashquan dans les années 70, les vieux racontaient encore. Moi et Sylvie Vincent, là, une année, on avait travaillé à Natashquan, puis on avait formé Agnès, Christine et Jacques, des gens de la région, pour qu'ils enregistrent leurs grands-parents. Ça avait ramassé, je pense, quelque chose comme 750 cassettes que des vieux racontaient. Antoine Gauthier. C'était des contes? Joséphine Bacon. C'était de tout. Des récits de vie, des Atanoukan. C'était tout ça. Tu vois, la vieille Marie-Louise, juste à elle, toute seule, il y avait 12 cassettes d'1h30 chacune. C'était toute sa vie en 12 cassettes d'1h30 qu'elle racontait. Il y avait Pierre Courtois qui, lui aussi, racontait Kwekwatcheux. Antoine Gauthier. On peut trouver ça où, ces transcriptions-là? Joséphine Bacon, dans les archives de José Mayotte, Sylvie Vincent, Rémi Savard. Vous écoutez « La nuit des temps », entretien avec Joséphine Bacon, un texte d'Antoine Gauthier paru en hiver 2023-2024 dans la revue Culture Trad Québec. La langue du territoire. Antoine Gauthier. Le langage. Est-ce que ce sont des mots que les jeunes peuvent comprendre, les mots du bois? Joséphine Bacon. Surtout dans l'Atanoukan que Charles Appy racontait avant l'entrevue. Carcajou, lui, l'appelle Michou, qui devient Michou Kwekwatcheux, puis après Kwekwatcheux. Ce sont des mots que les jeunes peuvent pas comprendre aujourd'hui. Antoine Gauthier. Pourquoi donc? Joséphine Bacon. Parce que ce sont des mots tellement anciens, des mots qu'on n'utilise pas pour parler. Ce sont des mots qu'on utilise quand tu comptes. Antoine Gauthier. Où il faut aller en forêt? Joséphine Bacon. Même si tu vas en forêt, Kwekwatcheux ou Michou Kwekwatcheux, c'est ces actions qui ont à voir avec les verbes qu'on retrouve dans ça. Antoine Gauthier. Puis les jeunes sont pas capables de le compter? Joséphine Bacon. Non, ils comprendraient pas, je pense pas. Écoute, aujourd'hui, les jeunes parlent plus anglais qu'ils parlent inou ou français. Tu sais, pour comprendre le langage de Charles Appy, il faut avoir cet âge-là, celui de Charles Appy, c'est-à-dire plus de 70 ans. Philippe Dubois. Charles Appy, je vous entendais parler en français tantôt. Seriez-vous capable de compter en français aussi? Charles Appy Bellefleur. En français, c'est trop dur. Si je parlais bien français, je serais capable de raconter bien des histoires. Comme moi, là, j'ai jamais été à l'école, même en inou, parce que Joséphine, il y a des mots qu'elle n'est pas capable. Joséphine Bacon, que je comprends pas. Charles Appy Bellefleur, qu'elle comprend pas beaucoup des mots anciens. Joséphine Bacon, c'est surtout quand je commence à être fatigué. C'est tous des mots que j'ai transcrits et traduits, mais quand je suis fatigué, même en français, j'ai de la misère. Quand il raconte, je comprends tout, puis quand je comprends pas, j'y demande. Ce que je sais pas faire, c'est de les livrer comme il les raconte, en français. Ça, quand je suis fatigué, j'ai plus de misère. Hier, ça a duré longtemps, ça a duré 2 heures et quart. Alors, je suis rentré épuisé. Philippe Dubois, il vous en demande pas mal, Charles Appy. Rire. Joséphine Bacon, non, c'est pas lui qui m'en demande. Si j'avais rien à faire pendant la journée, si j'avais juste lui, ça irait. Demain, je travaillerai pas. Je vais avoir juste Charles Appy à raconter. La transmission. Antoine Gauthier, c'est quoi l'avenir de ces contes-là? Dans le futur, est-ce qu'ils vont être encore racontés? Joséphine Bacon. Là, la série d'Atanoukad est filmée par Terre Inou. Mais tu sais, il n'y a plus de conteurs d'Atanoukad. Il n'y en a plus. Il n'y en a presque plus. Les derniers que j'ai transcrits et traduits, c'était dans les années 90. Antoine Gauthier. Ils venaient d'où, ces conteurs-là? Joséphine Bacon. Ils venaient de partout, de toutes les communautés. Le dernier que j'ai entendu raconter ça, c'était un Inou de Mastoyach, Alain Conley. Son père, qui parle encore Inou, le Néluun, racontait ça. Antoine Gauthier, comment ces mythes fondateurs se transmettent-ils aujourd'hui? Joséphine Bacon, tu vois, aujourd'hui, Charles Appy les compte à la radio communautaire. Il continue la tradition orale. Tu sais comme ça se passait dans le temps quand t'allais voir tes grands-parents puis ils te racontaient des Atanoukan. Mais là, aujourd'hui, Charles Appy s'est ajusté à la vie moderne. Il les raconte à la radio communautaire. Charles Appy garde ça encore vivant, parce qu'aujourd'hui, grâce à la radio, des jeunes les entendent encore. Ils continuent la tradition. C'est un héritage de son père qui lui racontait ça depuis qu'il est tout jeune. C'est extraordinaire. Les animaux. Antoine Gauthier. On parle beaucoup des animaux, mais quand on vit en ville, ou quand on vit même dans un village, on vit pas tant que ça avec les animaux. Qu'est-ce que ça nous raconte, les animaux, au fond, par rapport à notre vie? Joséphine Bacon. C'est parce que, tu sais, dans ce que Charles Appy raconte, le monde a commencé avec les animaux. Puis tous les animaux avaient un comportement humain. Mais aujourd'hui, on est des milliers et des milliers d'années plus tard. Antoine Gauthier, est-ce que les animaux nous parlent encore? Charles Appy Bellefleur, oui, ils parlent encore, comme les outardes, comme nous autres, français, anglais, peu importe quelle langue, les animaux aussi parlent. Si les outardes passent là-bas, puis je leur dis « Hey, les outardes, venez ici », ils viendront pas. Ils les appellent en inou. Non, leur langage à eux, Charles Appy imite la voix de l'outarde très fort. Rire. Là, ils vont venir. Ils parlent. Joséphine Bacon. Il connaît le langage des animaux. Charles Appy Bellefleur. Même le caribou, il parle. Charles Appy imite le souffle du caribou. Même les castors. Il imite le castor en frappant le bout de sa langue sur ses lèvres à répétition. tous les animaux, comme nous autres. On est des animaux, on a des poils, des moustaches. Comme la loutre, le castor, il ressemble à un humain. C'est ça qu'il dit, mon ancien grand-père. On est des animaux. Chakapesh. La suite. Joséphine Bacon. La Tanoukang qui suit Carcajou, c'est Chakapesh. C'est à ce moment-là qu'on va voir l'humain, un vrai humain à moitié poilu. Parce que Chakapesh, au début de sa vie, y est poilu. Jusqu'à temps qu'il perde tout son poil, puis qu'il retourne dans la lune. Charles Happy Bellefleur. Tu le vois? Quand c'est pleine lune, tu vois à côté de la lune, c'est un homme. C'est lui, Chakapesh. Joséphine Bacon. Parce que Chakapesh est jamais mort. Tu sais, quand la terre est devenue habitable pour l'humain, Chakapesh est retourné en haut. C'est comme les dénés qui racontent que ce sont les anges qui leur ont appris à jouer du tambour. Les anges étaient venus d'en haut puis leur avaient enseigné. Mais c'est devenu des anges quand le catholicisme s'est installé. Avant que ce soit des anges, c'était des gens qui venaient du ciel. Charles Happy Bellefleur. C'est le tambour qui est là, la lune. La lune est ronde, c'est un tambour. Joséphine Bacon. La religion a faussé bien des affaires. Il a fallu qu'on ajuste. C'est comme si on avait ajusté les vieilles Atanoukans avec le catholicisme ou l'évangélisation ou la colonisation. Charles Happy Bellefleur. C'est le créateur, Papa Kasikou, le maître du caribou, qui rencontre, raconte le chaman. Avant, il y avait la tente tremblante. Le créateur raconte ce qui s'est passé. On joue le tambour pour le créateur qui entend. Le créateur parle au tambour, le tambour parle au chaman. Le tambour donne les rêves aux chamans. Antoine Gautier. Puis des chamans, il y en a encore? Charles Happy Bellefleur. Le chaman, il est à côté de toi, là. Rire. C'était La nuit des temps, entretien avec Joséphine Bacon. Un texte d'Antoine Gautier paru en hiver 2023-2024 dans la revue Culture Trad Québec.